Merci d'être avec nous sur Europe 1.
Il est 19h.
Europe 1 soir.
Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. À la veille d'une 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et après un week-end d'ultra-violence à Sainte-Soline, la main tendue du président au syndicat pour parler de tout sauf de la retraite à 64 ans peut-elle apaiser la France insoumise accusée par l'exécutif de vouloir délégitimer les institutions? Doit-elle aussi mettre de l'eau dans son vin? Le député insoumis Antoine Léaumont sera avec nous vers 19h30, tout comme Yvan Ricordeau de la CFDT, puis vers 19h45, Thierry Vincent, journaliste spécialiste des Black Blocs, viendra nous éclairer sur ce déferlement de violence que nous observons depuis la semaine dernière. Vos questions, vos réactions au 39-21, le standard d'Europe 1. Nous vous écoutons juste après le journal. Bonsoir Hélène Zélani.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Vous évoquiez l'ultra-violence à Sainte-Soline. Un manifestant est dans le coma, un autre entre la vie et la mort. Information Europe 1 à suivre sur le profil de cet homme et aussi sur les éléments violents attendus dans les cortèges demain. Déjeuner à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron qui veut toujours discuter avec les syndicats mais pas sur la réforme des retraites et demande à Elisabeth Borne d'élargir sa majorité. Dans ce journal, on fait le point sur les pénuries de carburant, 15% des stations touchées en moyenne. Adieu les voitures neuves à moteur thermique dans l'Union européenne en 2035. Le cancer du sein d'une infirmière qui travaillait de nuit reconnu comme maladie professionnelle, c'est une première. Et puis le foot Irlande-France ce soir éliminatoire de l'Euro 2024 à suivre en direct sur Europe 1. Nous serons au stade de Dublin tout à l'heure.
La tendance météo, bonsoir Valérie Darmon.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Et bien la France qui retrouve des couleurs printanières avec juste un petit peu de pluie le long de la Manche et un ciel plus lumineux, voire ensoleillé partout ailleurs demain.
On vous retrouve tout à l'heure Valérie pour une météo complète. Un manifestant de Sainte-Soline est donc toujours entre la vie et la mort ce soir.
Oui, il participait aux violents affrontements qui ont éclaté samedi aux abords du chantier des réserves d'eau dans les Deux-Sèvres. Victime d'un traumatisme crânien, son pronostic vital reste donc engagé. William Molinier, vous nous dévoilez ce soir les informations d'Europe 1 sur le profil de cet homme.
Oui, cet homme né en 1990, il est connu des services de renseignement pour appartenir à la mouvance de l'ultra-gauche radicale et violente, et ce depuis au moins l'année 2009. Il a participé à plusieurs reprises à des manifestations en intégrant les Black Blocs dans les cortèges. Sa présence avait été signalée par les services lors du G7 de Biarritz en 2019. Il est aussi connu pour avoir pris part à la contestation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Profil donc d'un activiste, ancien cadre du local communiste révolutionnaire de Toulouse. En 2011, il avait par ailleurs été mis en cause pour des dégradations de locaux de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Il avait été placé en détention provisoire pendant 2 mois.
Vous restez avec nous, William. On apprend ce soir qu'un deuxième manifestant de Sainte-Soline est dans le coma. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vient justement de donner une conférence de presse sur les affrontements du week-end. Il dénonce la violence de certains manifestants.
Dans les Deux-Sèvres, nos gendarmes ont fait face à un déferlement de violence inouïe de la part d'individus armés, violents, et qui ont bravé l'interdiction de ces manifestations pourtant interdite depuis le 17 mars et connue de tous. Ils avaient clairement pour objet de blesser ou de tuer les gendarmes. Je le dis avec gravité, ces actes sont absolument intolérables. Nous ne laisserons pas s'installer la loi du plus fort et la violence de l'ultra-gauche.
Gérald Darmanin qui a détaillé le dispositif prévu demain, 10e journée de protestation contre la réforme des retraites. Dispositif inédit, explique le ministre, 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris. William Molinier, vous êtes toujours avec nous. Vous avez pu consulter une note du renseignement sur les éléments violents attendus demain dans les cortèges.
Oui, et ce qui inquiète surtout la place Beauvau, c'est la montée en puissance de la jeunesse, des jeunes qui sont entrés dans le mouvement jeudi dernier. Ils étaient 30 000 partout en France. Demain, leur participation pourrait doubler, voire tripler, alerte le renseignement. Les policiers redoutent aussi la radicalisation de certains adhérents des organisations syndicales tentés de rejoindre des mouvements citoyens ou des groupuscules violents. Leur objectif affiché est d'épuiser les forces de l'ordre. Casseurs, ultra-gauche, anti-tout, violents, des incidents graves sont anticipés dans une cinquantaine de villes. Au total, le renseignement territorial prévoit entre 650 000 et 900 000 personnes dans la rue, dont 60 70 000 à 100 000 pour la capitale, avec des blocages et des actions coup de poing devant les établissements scolaires ou sur les grands axes routiers. Il devrait commencer demain très tôt, dès 5 h du matin.
Voilà les informations de William Molinier.
Que vous pouvez retrouver plus en détail sur europe1.fr et sur lesquelles vous pouvez réagir en nous appelant au standard d'Europe 1 le 39-21. Et avant même la journée de mobilisation de demain, des actions sont déjà mises en place, et notamment à Paris où le musée du Louvre n'a pas pu ouvrir.
Oui, le personnel du musée le plus fréquenté au monde était appelé à la grève par l'intersyndicale. Les touristes ont donc trouvé porte close pour beaucoup. C'est l'incompréhension. Reportage de Clément Barguin.
Devant la pyramide du Louvre, un piquet de grève, impossible d'entrer dans le musée. Et forcément, pour les centaines de touristes amassés sur l'esplanade, c'est la déception. Maria est originaire de Grèce.
Bien sûr que je suis déçue, parce que c'est mon dernier jour à Paris. Il y a beaucoup de choses à voir à l'intérieur. Le Louvre, c'est un joyau de la ville.
Une grève que certains touristes peinent à comprendre, comme Karen, billet à la main, cette Anglaise est obligée de rebrousser chemin.
Au Royaume-Uni, on est habitué à travailler jusqu'à tard, jusqu'à 67, voire 68 ans. Donc pour nous, passer de 62 à 64 ans ne nous paraît pas énorme.
Cela faisait plus d'un an que Manon avait planifié sa visite au Louvre. Cette Belge rentrera chez elle sans avoir vu la Joconde.
C'est juste dommage de faire ça devant un musée, quoi. Il y a des gens qui viennent vraiment de loin pour visiter ça.
Mais cette action coup de poing est avant tout symbolique pour Élise Muller, secrétaire nationale de Sud Culture Solidaire.
La fermeture du Louvre, effectivement, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Ça ne nous amuse pas d'en arriver à bloquer notre outil de travail. On comprend la déception, mais il faut en parler à Macron.
Les visiteurs ayant acheté un billet pour ce lundi seront soit remboursés, soit pourront reprogrammer leur visite.
Le musée du Louvre sera également fermé demain, mais tout simplement parce que c'est la journée de fermeture hebdomadaire. Dans les transports, la SNCF prévoit un trafic fortement perturbé avec en moyenne 3 TGV sur 5. À la RATP, des difficultés sur les RER, moins que la semaine dernière dans le métro. Enfin, dans le primaire, 30% des professeurs seront en grève selon leur principal syndicat.
Et parallèlement, le gouvernement essaye de reprendre la main et lance des appels au calme.
Oui, à la mi-journée, Emmanuel Macron recevait à déjeuner Elisabeth Borne et plusieurs de ses ministres, ainsi que les dirigeants de la majorité. Le président veut toujours tendre la main au syndicat, Jacques Serret. Il continue de mettre la pression à sa première ministre pour qu'elle élargisse sa majorité.
Oui, la feuille de route est définie par l'Élysée. Emmanuel Macron a demandé à Elisabeth Borne de mener les consultations au bord de la majorité actuelle, autrement dit d'aller convaincre des parlementaires issus des Républicains ou du Parti Socialiste. La première ministre va identifier des accords possibles, explique-t-on dans son entourage. Elisabeth Borne a déjà prévu de recevoir la semaine prochaine à Matignon l'ensemble des groupes parlementaires ainsi que les représentants des partis socialistes. Mais tout cela pourrait se jouer en coulisses tant la mission s'annonce délicate. Les états-majors ne tiennent plus leurs troupes, justifie un conseiller de l'exécutif. L'enjeu, ce sont les consultations individuelles, aller chercher un par un les parlementaires qui ne sont pas si éloignés de nous. Elisabeth Borne a dit vouloir proposer un contrat de méthode d'ici 3 semaines, mais les contours sont encore flous. Un contrat qui ne sera pas proposé à la NUPES. Lors de ce déjeuner, le chef de l'État s'est emporté contre les insoumis. Il mène un réel projet politique. Il tente de délégitimer l'ordre raisonnable, nos institutions, estimé Emmanuel Macron à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation.
Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. L'un des insoumis répondra à ces propos rapportés d'Emmanuel Macron. Antoine Léaumont, député de l'Essonne. Vos questions, vos réactions sont les bienvenues au standard d'Europe 1, le 39-21. On en vient à la situation dans les stations-service. De nombreux automobilistes craignent la pénurie.
Oui, seulement 2 des 7 raffineries françaises continuent à produire, celle de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône et de Fézin dans le Rhône. Des personnels sont toujours réquisitionnés à Donges, en Loire-Atlantique. Cela posé, Margot Faudéré, quelle est la situation dans les stations-service?
Eh bien, la situation s'est légèrement dégradée ce week-end. 17% des stations-service manquent aujourd'hui d'au moins un carburant en France, selon les données de l'UFIP Énergie et Mobilité. C'est l'Union française des industries pétrolières. 2 points de plus donc que vendredi dernier. Dans certains départements, la situation est particulièrement tendue, comme en Loire-Atlantique, avec plus d'une station sur 2 en pénurie. Et les expéditions de carburant sont encore bloquées dans plusieurs raffineries, même si toutes les équipes ne sont pas grévistes. Signe que la situation préoccupe. Dans ces régions en difficulté, le gouvernement a ordonné la réquisition de personnel, comme à la raffinerie Total Énergie de Donges. Olivier Gantois est président de l'UFIP Énergie et Mobilité.
Quand il y a réquisition, c'est que à la fois le raffineur ou l'entreprise et les autorités estiment qu'il y a un problème et qu'on est en capacité de le résoudre en utilisant le carburant qui est présent dans les stockages de la raffinerie. PACA avait un nombre de stations en rupture d'au moins un produit qui était très élevé. La même chose au niveau de la Normandie.
En France, il y a toujours de quoi tenir 3 à 4 mois, tout stock de carburant confondu. Et le mouvement de grève, lui, dure depuis une vingtaine de jours.
Margot Faudéré. Et puis le site internet de l'Assemblée nationale a été bloqué une bonne partie de la journée. Une attaque de hackers pro-russes pour dénoncer le soutien de la France à l'Ukraine.
Il est 19h10 sur Europe 1. Restez avec nous dans un instant. La fin des voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035. C'est fait. L'Allemagne a levé son blocage, mais ça n'est pas sans contrepartie. On vous explique tout dans quelques instants. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 soir.
19h, 20h,
Raphaël Delvolvé.
Bientôt 19h12 sur Europe 1, la suite du journal d'Hélène Zélani. Cette fois, c'est sûr, en 2035, il n'y aura plus de voitures neuves à moteur thermique telles qu'on les connaît.
Oui, décision de l'Union européenne cet après-midi. Ça veut dire qu'elles ne devront plus émettre aucun CO2. Adieu donc, essence, diesel et hybride et vive le tout électrique. C'est une confirmation, Aurélien Fleureau. Ce qui change, c'est que l'Allemagne a réussi à imposer l'utilisation des carburants de synthèse.
Oui, c'est finalement un compromis qui a fini par être trouvé aujourd'hui. Bruxelles s'est engagée à ouvrir la voie aux carburants de synthèse dans une proposition séparée qui devra être validée d'ici l'automne 2024. Les véhicules équipés d'un moteur à combustion, donc thermique, pourront donc être immatriculés après 2035 s'ils utilisent exclusivement des carburants neutres en termes d'émissions de CO2. C'est ce que voulait l'Allemagne et ce ne sera pas sans conséquence, selon Guillaume Crunel, associé en charge de l'automobile au cabinet de Deloitte.
Le thermique est ressuscité d'une certaine manière, puisqu'on lui prévoira un avenir possible avec des carburants de synthèse au-delà de la date fatidique de 2035. Force est de constater qu'on a un grand pays, voire un des plus grands pays de l'automobile, qui a pesé de tout son poids pour avoir cette possibilité-là. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même quelques impacts.
Ces carburants de synthèse fabriqués en captant du CO2 auquel il faut combiner de l'hydrogène vert coûtent cher pour l'instant, sont critiqués par des associations environnementales pour leur côté énergivore. Mais si l'Allemagne s'y met sérieusement, eh bien cela pourrait changer la donne.
Aurélien Fleureau.
Ça pourrait faire jurisprudence. Le cancer du sein d'une infirmière vient d'être reconnu maladie professionnelle.
Oui, c'est donc une première. Elle s'appelle Martine. Elle a 61 ans. Cette ancienne infirmière de l'hôpital de Sarreguemines en Moselle a travaillé pendant 28 ans en horaire de nuit. Et selon le médecin expert Nina Droff, c'est bien ce qui a provoqué son cancer du sein.
Oui, il l'a écrit noir sur blanc, ces 873 nuits complètes passées à travailler à l'hôpital sont directement responsables de sa maladie. Une décision inédite qui va dans le sens de plusieurs études scientifiques. Elles ont déjà souligné un risque accru de cancer du sein quand on travaille longtemps de nuit avant la ménopause. En fait, avoir un rythme de sommeil perturbé participe à dérégler l'horloge interne et les fortes lumières, la nuit, empêchent le corps de sécréter une hormone qui protège normalement l'organisme contre ce cancer. Cette reconnaissance est donc une victoire pour cette infirmière, mais pourrait aussi faire jurisprudence pour les autres femmes dans des situations similaires. Plusieurs tribunaux français ont d'ailleurs déjà été saisis pour des cas identiques à Metz et à Marseille. La CFDT minier de Lorraine, très investie sur le sujet, demande par ailleurs une inscription définitive du cancer du sein au registre des maladies professionnelles, ainsi que d'inscrire des pauses et des roulements dans les règles du travail de nuit.
Nina Droff. Et puis cette annonce du ministre de la Santé, la hausse de 20% du plafond de rémunération des médecins intérimaires à l'hôpital. Ils seront désormais payés 1 390 euros brut mensuels maximum pour 24 heures de travail, contre 1 170 euros jusqu'ici. Les intérimaires sont indispensable pour les petits hôpitaux.
Allez, le football, les Bleus de retour ce soir contre l'Irlande, 3 jours après leur éclatante victoire face aux Pays-Bas.
Oui, deuxième match des éliminatoires 2024 au stade de Dublin où nous attend Jean-François Pérez. Évidemment, Jean-François, l'adversaire est moins prestigieux, mais les Bleus se méfient beaucoup de cette équipe irlandaise.
Oui, à juste titre. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, c'est pas le prestige des Pays-Bas. Hein. L'Irlande, c'est actuellement 48e au classement mondial. L'équipe n'était pas à la Coupe du Monde. Ce sont des joueurs qui évoluent principalement en deuxième division anglaise et encore pas forcément dans les meilleures équipes. Mais vous savez, ici, il y a un esprit qui règne. Et le temps devient irlandais. D'ailleurs, les nuages s'amoncellent au-dessus de nos têtes. Il va sans doute pleuvoir d'ici la fin de la soirée. Il y a des milliers de supporters qui sont déjà arrivés et qui rêvent de refaire le coup du rugby. Vous savez que pour aller au Grand Chelem il y a quelques semaines, eh bien, l'Irlande avait battu la France ici même dans cet Aviva Stadium. Et donc, ils rêvent, les Irlandais, de refaire la même chose en toute amitié au football. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Didier Deschamps, le sélectionneur français, se méfie particulièrement. On l'écoute.
Dans la tradition, cette équipe d'Irlande a toujours eu cette générosité, cet enthousiasme. Ça fait partie de leur ADN, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a de la qualité technique aussi. L'engagement, il y sera. Il ne faut pas s'attendre, en plus, avec le public ici qui pousse bien. Donc, c'est le haut niveau.
Exactement, le haut niveau, ils seront 50 000, il y aura 3 000 Français à peu près. C'est considérable, hein, c'est l'un des plus importants contingents de déplacement de supporters français dans l'histoire récente. Il faut dire, il faut être tout à fait franc avec vous, c'est quand même un déplacement qui est très sympa ici à Dublin. On y est bien. L'Irlande qui sera emmenée notamment par le diamant brut, le jeune Ferguson, 18 ans à peine, que les défenseurs français craignent particulièrement. Et puis un petite indiscrétion peut-être sur la composition de l'équipe de France. Normalement, deux changements par rapport à l'équipe qui avait brutalisé, j'allais dire, les Pays-Bas 4-0. C'est Benjamin Pavard qui devrait revenir titulaire sur la droite à la place de Jules Koundé. Et en pointe, Olivier Giroud serait titularisé. Kolo Muani serait déplacé simplement à droite. Pour le reste, c'est classique avec évidemment Kylian Mbappé en capitaine.
Jean-François Pérez, Irlande-France, à suivre en direct dès 20h dans Europe 1 Sport. Coup d'envoi à 20h45. Les marchés financiers. Nous sommes avec Didier Hamou de boursier.com et c'est un début de semaine en hausse à Paris, Didier.
Oui, ça se passe bien. En hausse de 0,9%, 7078 points sur le CAC 40. Le secteur bancaire se stabilise alors que les autorités allemandes ont rassuré sur le devenir de la Deutsche Bank qui inquiétait les investisseurs la semaine passée. En Bourse de Paris, ça remonte sur BNP, plus 2,6%, sur le Crédit Agricole, plus 0,9% à 10 euros. La Société Générale est stable à 20 euros. Après le stress bancaire des dernières semaines, les marchés ne voient plus vraiment les taux d'intérêt monter en bourse. Cela donne des rebonds un petit peu partout en Europe. Le DAX à Francfort gagne 1,1% ce soir. La Bourse de Bruxelles, plus 1%. Madrid, plus 1,5%. Et le CAC 40 remonte de 0,9%. 7078 points.
Merci Didier Hamou.